C'est l'artichaut.
Artichaut.
C'est l'artichaut.
Le moment où on parle d'art. L'émission que vous retrouvez sur le 101.7. C'est deux rendez-vous par mois.
Une belle émission culturelle et artistique qu'on propose aux auditeurs, auditrices du 101.7.
Comme vous en avez de la chance.
Vous êtes bien sur Radio Diwa.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Artichaut, comme tous les vendredis soirs à 20h. C'est le rendez-vous qu'on vous donne avec Carotte.
Bonsoir.
Et c'était un mois d'octobre spécial Van Gogh. On en a à dire, il y a plein de choses à dire sur cet artiste qui en plus te passionne.
J'adore. Puis de toute façon, il faut prendre le temps qu'il faut.
Il faut toujours prendre le temps. Tout à fait. Van Gogh est un artiste connu, on l'a tous entendu parler de lui, qu'on le connaisse vraiment, ou en tout cas, voilà, comme tu disais aussi de César, c'était soit aimé, soit pas, mais ça laissait pas indifférent. Bref, Van Gogh sonne à l'oreille de chacun,
aux yeux
de chacun, plutôt. Et du coup, voilà, comme à chaque fois, on s'appuie sur nos petits ouvrages pour vous proposer une émission assez chouette aussi. Et sur l'ouvrage qui nous sert d'inspiration depuis le début, on peut se rendre compte que ces œuvres ont été connues parce qu'elles ont été internationales, parce qu'il y a eu des records de vente. Ça a été vu à la télé aussi quand on parle de l'église d'Auvers-sur-Oise. Et c'est aussi peut-être synonyme de douleur, parce que sur le portrait de l'artiste, en tout cas, il y a écrit que ça a été connu parce que c'était douloureux.
Clairement, le docteur Gachet, il a dû faire un record de vente. Et on va parler de lui parce qu'il a compté. Et pas que pour Vincent, mais aussi pour Cézanne ou Pissarro. Parce que tu sais que c'était un homéopathe. Il avait un cabinet à Paris. Et en fait, il habitait le week-end et avec sa famille à Auvers-sur-Oise. Et c'est lui qui a assisté Vincent pendant qui mourait là de cette fameuse balle dont on reparlera d'ailleurs. Alors ensuite la douleur, ben évidemment, mais pas que, parce que pour moi c'est aussi un artiste du bonheur comme Renoir a pu l'être. Et moi je vois, dans mis à part la période du Brabant qui est sombre et noire et pauvre et triste, toute la période parisienne et les périodes qui vont suivre. Et même les dernières tableaux d'Auvers, comme le chant au corbeau, etc., sont chatoyants. Et moi, je les vois comme vraiment des explosions de couleurs. Et quelque chose de gai, d'infiniment vivant. Je veux dire, si Vincent Van Gogh a réussi à mettre de la vie dans ses trucs, c'est parce que justement l'usage des couleurs est riche et varié. Et c'est lumineux et joyeux et chatoyant. Et ça explose de partout. Alors après, on parlait de vue à la télé, donc l'église d'Auvers-sur-Oise, ben sûrement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les nuits étoilées, donc tu as parlé, donc il y a plusieurs...
International, du coup.
Ouais, qui sont partis à l'international. De toute façon, beaucoup d'œuvres de Van Gogh sont partis à l'international encore, évidemment. Et du coup, les ciels étoilés, je voulais revenir là-dessus. Il y a un gars qui a dit que les ciels qu'il avait peints, eh ben, on peut retrouver les dates et heures exactes, parce que le ciel qu'il a peint, les étoiles, il a peint le vrai ciel astronomique de l'heure où il l'a peint. Tu vois, alors ça... Ça, c'est carrément...
C'est incroyable. Avec, carrément... Genre, avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, ils peuvent
Bah, en tout cas,
faire le lien avec le ciel. Wow.
Et il y a un gars dans le reportage que j'ai vu consacré à ça, justement, le ciel astral à l'égyptienne qui donne la date où a été peint le tableau. Donc ça, c'est la magie aussi de Vincent. On va parler, donc là, nous on s'est arrêté dans l'autre émission sur la période, le japonisme, la période japonisante, ou en tout cas tout l'apport que les estampes japonaises vont donner comme essor, hop, et nouvelle modernité à la peinture de Vincent. Donc moi j'appelle ça la période raga parce que c'est vert jaune rouge je trouve que c'est d'un modernisme. C'est d'un modernisme fabuleux, quoi. Et c'est toujours beau à l'œil.
Est-ce qu'il est parti voyager par là-bas pour être inspiré comme ça ?
Alors, ça s'est fait, pas du tout. Ça s'est fait par l'entremise du père Tanguy, qui l'a peint. Donc, il faut savoir que c'est un anarchiste de la Commune de Paris qui était en première ligne et donc qui a été jugé et qui devait être envoyé au bagne. Et c'est sur le quai, juste avant qu'il embarque... qu'il a été sauvé par un de ses amis qui avait été élu d'une circonscription de Paris, qu'il l'a sauvé in extremis d'une disparition certaine. Et donc, il a fini par ouvrir un magasin de couleurs, un petit magasin de couleurs. Et lui, il était fan d'art japonais. Donc, le Japon s'est ouvert à l'Occident vers le milieu du 19e siècle. Donc, il y a eu un moment de découverte. Et donc, le père Tanguy a fait partie de la vague qui commençait à recevoir des estampes, à les collectionner. Et comme Vincent Van Gogh et plein d'autres artistes allaient chercher leurs couleurs chez lui et les châssis, il leur montrait les merveilles qu'il avait reçues en import du Japon. Et c'est comme ça que Vincent a commencé toute une série de copies sur ce thème. Donc, où il y a un premier plan ou un détail de quelque chose qui vient masquer l'arrière-plan et où on voit aussi l'aplanissement de l'image. Donc là, c'est par exemple sur le portrait du père Tanguy, on voit bien deux niveaux. Il y a un niveau tout géométrique, c'est plutôt les estampes derrière. Et après, il y a un niveau tout paysager, tout gondolé, comme si c'était lui le paysage. Et ça finit par la terre de son pantalon. Et il a les mains croisées. En fait, il a vraiment l'attitude d'un Bouddha. Et il a ce côté exotique et religieux aussi du bouddhisme. Enfin, il y a une grande sérénité qui sort de ce tableau. Aussi, la puissance des mains jointes qui rappelle à la religion. Enfin, on sent on comprend que cet homme aime infiniment et sacralise aussi
l'univers.
Son univers, ouais, et les choses qui sont derrière lui. Donc, et moi, je trouve que la posture sereine, un peu justement à la Bouddha, un Bouddha bienfaisant, est vraiment présente dans ce tableau. Et après, c'est vrai que moi qui aime beaucoup la musique, j'ai tendance aussi à voir des pochettes d'albums de musique. Je ne sais pas comment vous exprimer ça, mais voilà. Alors après, Vincent, il est un peu fatigué de la vie parisienne et tout ça. Et il décide de reprendre un peu de campagne et il va aller à Arles. Et donc là, il va travailler beaucoup sur des couleurs très claires. Ce mélange bleu, bleu ciel, vert, jaune, avec des petites touches de jaune. Une image idéale de la campagne. Donc ça aussi, c'est pour nos rétrospectives de « avant, c'était mieux ». Voiture à cheval et paysages non industriels. Ouais. Et après, hop, toc, il va aller faire un tour au Sainte-Marie-de-la-Mer.
Donc, incroyable.
Je pense que c'est. Alors, je pense qu'il est parti dans le sud, Arles. Je ne sais pas trop quelles étaient ses attaches, mais clairement, je sais que Cézanne l'avait vivement invité à aller visiter la lumière fantastique du midi qui voile tout avec ce mistral qui rend les nuages allongés et qui nimbe un peu tout de lumière. Donc, ça lui change aussi sa palette et ça éclaircit. Ça explose de jaune. Donc, c'est les prémices au tournesol, ça. Et c'est vraiment comme les icônes russes, comme les icônes grecques, orthodoxes et tout. Enfin,
avec le makati.
C'est quoi le makati ?
Le makati, c'est un symbole que tu retrouves vraiment de partout en Grèce, et l'œil. Et en fait, il protège justement du mauvais œil. Donc les gens, ils ont l'habitude de soit le porter en bijou, soit de le mettre devant leur porte, sur les restaurants, dans leur restaurant, dans les bus. Ils se sentent protégés, ils sont vraiment croyants. Et le makati, ça représente une vision d'un œil infinité. Quoi. Enfin...
C'est ça, l'œil universel, l'œil qui voit tout. Donc là, regarde, je te montre sur les planches un dessin préparatoire. Donc il a fait énormément de dessins. Ce qu'il y a, c'est qu'il a été ultra productif. Ultra productif en dessin, ultra productif en copie, ultra productif en œuvre. Et à la fin de sa vie, genre les 70 derniers jours, il a fait carrément un tableau par jour, quoi. Donc du coup, il en laisse beaucoup. Ça fait une courte vie, mais ça fait une œuvre immense. Alors là, il va rencontrer un personnage et toute une galerie de personnages à Arles qui vont vraiment le toucher et dont la famille, donc le fameux facteur Roulin. Donc, il n'était pas vraiment facteur. En fait, il s'occupait de livrer les paquets qui arrivaient à la gare. Et il était éminemment sympa. Et la famille Roulin va se prendre d'affection pour Vincent. Et il va pouvoir manger à leur table et faire la connaissance de la famille. Et il va y avoir des portraits de tous. Donc, une belle galerie de personnages. Et c'est là que commence à lui venir l'idée d'un lieu de co-création. Et il cherche un copain, un autre peintre avec qui il pourrait faire cette co-création, et c'est Gauguin. Et donc on va pas parler de ça parce qu'on en a déjà parlé dans le précédent.
Et on a été Gauguin. Bien déçus hein, d'ailleurs.
Voilà, donc ça c'est la partie l'atelier du Sud. Donc ce qui est chouette quand même dans cette histoire, parce que là tu les vois, c'est les échanges des portraits qui se sont faits avec leur correspondance. Et ça j'aime beaucoup, c'est-à-dire on écrit une lettre et on envoie son autoportrait ou les décorations. L'installation de la maison, comment ça se goupille et tout. Enfin, tous ces échanges avec Paul Gauguin sont représentés dans ce livre et sont très intéressantes. Merci. Donc là, on a les portraits de toute la famille Roulin, le facteur, sa femme, les enfants, Marcel, son fils, le grand, Camille. Et donc, on peut aussi, au travers de tout ça, voir la richesse des portraits et de tous les gens qui ont été ses amis, parce que nécessairement, pour se faire tirer le portrait, il faut discuter avec l'artiste et tout. C'est un échange, et c'est un échange intime, profond et unique. Donc, on voit bien comment ces gens étaient fascinés par le peintre et comment le peintre leur plaisait, et qu'il y a beaucoup, énormément d'amour et de respect là-dedans. Donc la famille Roulin l'adopte et tout, il fait plein de portraits, il est heureux comme tout, tout se passe bien jusqu'à cette histoire d'oreille qui va faire que donc il va se retrouver à l'asile. Alors c'est super parce que là on vient de voir Stan du Baraboc qui m'a dit
tout à
que
fait.
Il avait habité à côté de l'asile de Saint-Paul de Mosol et que du coup il retrouvait les jardins n'avaient pas changé et la campagne environnante pas tant non plus et qu'il retrouvait dans la peinture de Van Gogh tout ce qu'il trouvait en y allant encore aujourd'hui. Donc alors ça aussi c'est génial. Alors est-ce que c'est la peinture de Vincent qui a fait qu'il y a eu des associations qui ont protégé tout le territoire autour de l'asile et l'asile comme muse picturale de l'artiste et nécessité à être protégée. Ou est-ce que c'est simplement parce que c'est tellement magnifique que tout le monde a continué de honorer cet endroit et de le sacraliser. Après cette histoire vraiment tragique de l'oreille, et donc, comme je vous l'ai dit, je reste persuadée que c'est Paul Gauguin qui a coupé l'oreille de Vincent. Donc Vincent n'était pas fou. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à l'asile, dans le cadre ravissant de ce cloître, qui est ancien et avec un jardin magnifique et des jardins extérieurs fabuleux, il va trouver le calme et la sérénité du séminariste qu'il est à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire, c'est vraiment un créateur d'images et d'images sacrées. Et il est bien dans le calme aussi et la plénitude. Finalement, peut-être que trop de chamboulements, trop de vie sociale peut-être finissent par un peu le fatiguer. Alors j'ai appris que en plus de sa syphilis, donc ce qu'on a appelé des crises de paranoïa, en fait c'était probablement des crises d'épilepsie, ce qui vient confirmer le fait qu'il n'était pas fou. Il sait qu'il est bon et qu'il est reconnu par tous les gars dont il aime la peinture, tout le monde sait qu'il est bon. Il ne vend rien, il leur a vendu un tableau pendant toute sa vie, quoi. Donc le désespoir du peintre joue, et puis ce côté, tu vois, surévaluation, survalorisation de soi-même et sous-valorisation de soi-même. Donc clairement, sur un profil syphilitique, donc ça monte aussi au cerveau, qui boit de l'absinthe et qui se fait des crises d'épilepsie et qui en plus est perfectionniste mais qui gagne pas un rond. Il a un profil d'artiste complet. Et en ça, il est aussi moderne. C'est que finalement, on n'est pas fou, on est juste des ultra-sensibles. Et oui, peut-être on ne nous comprend pas parce que peut-être on est des visionnaires et qu'on a quelques années d'avance, je ne sais pas.
Erdiwa.
Il arrive à utiliser tout ce qu'il apprend, tout ce qu'il sait, tout ce qui lui plaît. Il arrive à se l'approprier, le synthétiser, jusqu'à en rendre la folie furieuse comme ce rocher d'eau qui s'appelle Ravin des Péroulets. Le Ravin des Péroulets, le Ravin. Bon, là, c'est super tortueux et torturé, mais c'est pas, je veux dire, c'est l'image de la nature, c'est pas son image mentale. Donc il est bien, et là on voit qu'il sort de l'asile, il gagne les paysages extérieurs, ça y est, on le retrouve, enfin, il va se balader dans la nature, et là il est saisi par le vent, le mistral, et la forme de ces nuages, les cyprès qui s'agitent sous nos yeux, quoi. C'est fabuleux. Et toujours l'idée du cosmos, c'est-à-dire ça n'a pas de fin, ça... C'est des vagues, c'est super vibratoire.
Tout est en mouvement.
Ça, tu le ressens bien quand même, ouais, le côté vibratoire de cette peinture. Alors, les gens prennent ça pour de la folie furieuse. Moi, je prends ça pour une lucidité et un instinct visionnaire de sorcier chaman, quoi. Alors après, on arrive, donc hop, il se balade dans les paysages du sud, ça y est, hop, les travaux des champs, les récoltes, les jardins des oliviers. C'est super géométrique et ça vient se mélanger avec cet effet pointillisme de lumière qu'on voit dans le ciel là et qui s'éparpille mais sur une bande blanche puis une bande plus foncée. Et ça cohabite très bien, c'est-à-dire que l'œil apprécie énormément ce type de hachurage. Ça donne de la fluidité en fait et ça donne aussi un aspect éternel. Ces arbres-là, on dirait que c'est des femmes qui se coiffent ou qui marchent, enfin... dressés vers le ciel, enfin c'est très chouette, ou des pom-pom girls qui agitent leur... et les fameux ciels étoilés, donc cosmiques, où carrément là le village il rentre dans le cosmos, enfin voilà, d'un coup tout part dans l'éternité, dans l'astral. La proportion d'astral, elle est deux fois supérieure à la proportion de terrestre. Et clairement, on dirait une vague qui va venir encore prendre ses couleurs et les mélanger. Enfin, c'est fabuleux. En même temps, on feuillette le livre, hein, donc ne vous inquiétez pas, on vous invite à faire la même chose pour justement de comprendre de quoi on parle par des images, tout en n'ayant pas le grain, parce qu'il y avait de la matière en peinture, hein. C'était des petits blocs de peinture de couleur. C'est pas plat, c'est plein de reliefs, de bosses et d'aspérités, avec des coins un peu plus floutés et des coins où carrément, bam, 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 il y a les touches de couleur qui sont mises. Et donc après, il va se retrouver à Auvers-sur-Oise, parce qu'à Auvers-sur-Oise, il y a le fameux docteur Gachet, notre célèbre homéopathe, qui va être là dans les moments difficiles. Alors ils sont devenus copains, il a fait le portrait, qui ressemble vraiment à un paysage. C'est le docteur Gachet fatigué, las. Et après, pour une raison ou pour une autre, Vincent ne va plus vouloir le voir. Et il viendra quand même les quelques jours à son chevet, mais sans pouvoir le sauver, malheureusement. Alors, il va profiter aussi qu'il est à Auvers pour aller voir Daubigny, qui est un peintre dont il aime énormément le travail, Charles-François Daubigny. Qui est mort en 1878 et donc il apprend que la veuve a gardé le jardin tel quel et qu'elle l'entretient et que c'est très joli. Et donc il va y aller faire une visite à la veuve et il va faire le dessin du jardin d'Aubigny. Et puis ensuite il va enchaîner le chant des corbeaux et le chant des corbeaux qui apparaît pour certains comme une prophétie, mais en fait pas du tout parce que Vincent Van Gogh a été en carence alimentaire à peu près toute sa vie parce qu'il préférait acheter des fournitures plutôt que de la nourriture, exactement comme moi. Et du coup, là, quand on est au champ des corbeaux, en fait, il a 30 toiles de commandées, des couleurs et tout. C'est-à-dire, en fait, clairement, là, il va pour se mettre au boulot pour un bon mois. Il y a polémique sur la fin des jours de Vincent Van Gogh. À savoir que d'un côté, il y a l'histoire officielle qui dit donc qu'il était fou, qu'il était paranoïaque et suicidaire et que donc il se serait tiré une balle de la main gauche dans l'estomac, dans l'abdomen, alors qu'il était droitier. On n'a pas retrouvé l'arme. Il a mis 3 jours à mourir chez lui dans la maison des Ravoux, là, à l'auberge. Et moi, j'ai été fouillée dans l'histoire et que j'ai donc appris qu'il rencontrait régulièrement dans les champs deux jeunes ados qui s'appelaient les frères Secrétant, René et Gaston, qu'il y en avait un René qui aimait la peinture et qui sûrement avait été lui parler et le voir peindre et travailler, parce qu'il était toujours dehors, Vincent, avec son petit fourbi là. Donc du coup, les gens le connaissaient et connaissaient sa silhouette et le croisaient régulièrement dans les champs. Donc ces deux gamins-là parisiens qui étaient en vacances à Auvers, l'avaient rencontré. L'aîné était plutôt fin, philosophe et lettré, et le second, l'ado, était plutôt pas fini, colérique et inculte. Donc il semblerait que le père Secrétant les avait amenés voir une fantaisie de Buffalo Bill, et il était reparti de cette fantaisie en achetant à son fils Gaston un colt et des affaires de cow-boy, avec un chapeau de cow-boy et genre une veste à franges et des bottes qui étaient en vente sur ce divertissement qui arrivait d'Amérique. Et que donc, pendant leurs vacances à Auvers, le gamin, il était venu avec tout son fourbi de petits Buffalo Bill, là, et que, voilà, il aurait tiré. Qu'il l'ait pris pour cible ou pas, peu importe, Vincent a pris dans le bide la balle perdue de Gaston Secrétant, qui lui aurait tiré dessus avec ce colt, et les deux gamins seraient partis en courant, et personne n'aurait rien dit, enfin surtout pas Vincent, qui était un saint homme, et voilà, il serait mort en emportant ce secret chez lui. Les années ayant passé, les frères Secrétants sont morts et personne n'a écrit dans son testament ou a avoué qu'il s'accusait d'avoir blessé mortellement par accident Vincent Van Gogh. Mais il semblerait que ma thèse soit relayée par d'autres spécialistes des arts aux États-Unis et que ça vient corroborer tout ce qu'on sait sur Vincent Van Gogh, c'est-à-dire, un, il n'était pas du tout suicidaire, mais ça je l'ai déjà dit, de par sa grande spiritualité et son éducation religieuse, très à cheval sur ses histoires de suicide. Et deux, il était prêt à bosser, il était très bien à Auvers où il était très bien entouré. Et trois, c'est pas étonnant qu'il ait rien dit puisqu'il avait déjà rien dit pour Paul Gauguin. Donc quelque part, voilà, la boucle est bouclée. Le saint homme ne parle pas une première fois de la façon dont on le martyrise et il emmène avec lui dans le tombeau un secret d'accident d'enfant. Et ça colle tout à fait avec ce que je sais de Vincent, pourquoi je l'aime et pourquoi j'ai l'impression de le comprendre. Donc malheureusement, ça fait pas vraiment vendre des livres, ou en tout cas si ça en faisait, peut-être que ça ferait des procès, je sais pas. Donc l'histoire officielle nous raconte celle d'un fou, moi je voulais vous raconter celle d'un saint qui peignait divinement l'univers, voilà, et qui était connecté. C'est le plus connecté des connectés de tous les peintres que je connaisse. Merci Vincent. Merci Malo, et donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Tout à fait.
On va travailler ça pour la semaine prochaine. Chers auditeurs, je vous aime, je vous adore, vive l'artichaut, vive les artistes, vive la création, et vive toi Malo qui a eu la bonne idée de cette émission qui me met à chaque fois en joie et ça me file la patate et j'ai commencé un nouveau tableau. Merci.
Eh ben j'en suis ravie.
Air d'Ivoire, la radio de la joie.
Vous êtes bien sur Radio d'Ivoire.